Merci. Alors, on démarre une séance dont je pense qu'elle est très, très importante pour l'open access, puisque on le dit souvent, on le répète, on va le répéter. Un des points de blocage de la transition vers l'open access, c'est bien les modes d'évaluation. Alors, on va commencer par le professeur Jean-François Bach, qui est professeur de médecine à Necker et académicien des sciences. Alors, il est professeur de médecine à Necker et donc il est à Paris Descartes et à l'université Sorbonne Paris-Cité. Je vous passe la parole. On m'a donné l'ordre de faire très, très vite. Donc, ne dépassez pas le temps, s'il vous plaît.
Bien. Merci beaucoup. Merci tout d'abord au comité d'organisation. À Couperin, je voudrais profiter de cette occasion pour les féliciter de tout le travail qu'ils ont réalisé depuis plusieurs années. Nous avons, à l'Académie des sciences, beaucoup réfléchi à tous les problèmes qui viennent d'être évoqués depuis hier après-midi. Nous avons fait avec Denis Jérôme en particulier trois rapports, un sur l'évaluation individuelle des chercheurs, un sur la bibliométrie et puis un récent sur les publications scientifiques. Je vous incite à les retrouver sur le site de l'Académie. Un premier commentaire que je voudrais faire avant de commencer, cela a été dit, peut-être pas assez, c'est la variabilité, les différences de culture selon les disciplines. Et je dois dire, quand j'entends, comme je l'ai fait ce matin et hier, des propositions qui sont faites par des disciplines autres que la mienne, qui est la biologie, je dois dire, je suis émerveillé et j'aimerais tellement que l'on puisse arriver à faire des opérations de ce type en biologie et en médecine. On en est loin pour les raisons que je vais évoquer. Et ce n'est pas seulement vrai pour la biologie et la médecine, il y a d'autres disciplines qui ont des problèmes à régler, des problèmes internes liés à la culture ambiante. Avant de commencer à critiquer l'expertise, car c'est bien ça que je vais essayer de faire, parce qu'elle ne me semble pas complètement satisfaisante, il faut quand même en dire tout le bien qu'elle mérite. Alors certes, il y a des archives ouvertes où l'expertise peut se faire dans un second temps, on l'a entendu ce matin, et c'est très important. Ce n'est pas très facile à étendre, j'y reviendrai, à toutes les autres disciplines, mais c'est un pas important, majeur, et nous l'avons soutenu à l'Académie de façon formelle à plusieurs reprises. Néanmoins, nous sommes dans beaucoup de domaines débordés par le nombre de publications, nombre de publications publiées, mais également nombre de publications soumises et non acceptées. Et s'il n'y a pas un certain tri, dans certains domaines, on est devant une impossibilité matérielle. Déjà, peut-on reprocher à certains chercheurs de ne pas lire en dehors de leur domaine précis, ce qui les amène parfois à un manque de culture en dehors de leur domaine. Alors, si on ne les aide pas d'une manière ou d'une autre, il est évident que la chose deviendra quasiment impossible. Alors, le problème se pose en particulier dans certaines disciplines où les moteurs de recherche utilisés, je sais qu'il y en a qui peuvent retrouver les articles où qu'ils soient, mais par exemple, dans mon domaine, le PubMed, qui est très largement utilisé, Web of Science, ne rend pas très facile de retrouver les articles qui ne sont pas dans les revues, disons, classiques, conventionnelles. Et c'est très regrettable. Je pense que c'était un défi très important de la communauté scientifique internationale que d'arriver à régler ce problème. Autre élément en faveur de la revue par les pairs, c'est l'amélioration des articles. Bon, certes, il y a des mauvaises revues, je veux dire revues mal faites, mais quand une revue est bien faite, très souvent, ça permet aux chercheurs de réfléchir et éventuellement d'améliorer son article. C'est un point qui mérite d'être dit. Et puis, il y a les épijournaux. Nous avons entendu Claude Kirchner ce matin faire un brillant exposé sur le sujet. Il est évident que c'est une voie extrêmement riche, extrêmement intéressante. Elle a été tentée en biologie et en médecine, c'est difficile. De nouveau, et le point a été fait par un intervenant tout à l'heure, tout ça dépend de la taille de la communauté. Géosciences, bon, c'est 12 000 personnes dans le congrès international. Dans les domaines de biologie et médecine, c'est 10 000 personnes pour chaque discipline. Donc, nous sommes dans une situation où nous sommes complètement débordés par le nombre d'articles. Et encore, l'Asie commence tout juste à arriver. Donc là nous avons ce problème de tri qui est regrettable parce que, d'une certaine façon, quand on dit tri, on dit injustice à un certain niveau. Mais on ne peut pas y échapper complètement, au moins, comme je le disais, dans certains domaines. Alors, quelle est la situation actuelle? Alors, je ne reviendrai pas sur les archives ouvertes, parce que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je redirais simplement que nous sommes complètement d'accord et soutien inconditionnel de cette démarche. mais en reconnaissant qu'en biologie, ça a été difficile. C'est difficile pour les raisons qu'on va voir. Il nous est difficile de demander à un post-doctorant de déposer un article plutôt que de tenter l'aventure des grandes revues dont je vais parler. Alors, parlons des plus grandes de ces grandes revues, Nature, Science en particulier, bien sûr. Alors, ces revues fonctionnent d'une façon qui est en train de déraper et de dériver, à mon sens. Elles sont soutenues par une fraction non négligeable de la communauté scientifique, parce que quiconque a fait passer un article dans ces grandes revues, eh bien, on est très content. Tout juste, on ne sait pas le champagne quand on a un article dans un laboratoire accepté dans ces revues. Un article publié dans Nature est important parce qu'il est publié dans Nature, et nous savons tous qu'il y a beaucoup de mauvais papiers dans Nature. Donc, il y a une dérive importante, mais ils ont une visibilité extraordinaire, même utilisée par les grands médias publics, nous le savons tous. Quand on regarde le détail du fonctionnement de ces revues, on est un peu surpris. Tout d'abord, et cela est dû au fait qu'ils reçoivent un nombre que je ne connais pas, car tout cela n'est pas transparent, mais nous savons tous qu'ils reçoivent un nombre d'articles extrêmement important. Nous savons qu'ils rejettent, sans les avoir lus, sans les avoir fait expertiser, la majorité des articles reçus. Je ne sais pas les chiffres, ils ne sont pas connus officiellement. Certains disent 60-70%, ça dépend des revues, et peut-être même plus. Et ces retours sans lecture se font dans la journée, parfois dans les heures. J'ai même vu dans les minutes qui suivent la soumission d'un article. Et ça, c'est un problème très grave, parce qu'on voit refuser les articles qui sont absolument excellents, qui n'ont même pas la chance, la possibilité d'être examinés. Alors, une fois l'article examiné, peut-être, je ne sais pas, 50%, 40% sont acceptés. Mais là, on tombe dans un autre problème que je vais évoquer dans un instant, c'est que c'est souvent assorti de commentaires sur plusieurs pages. Moi, j'ai vu des reviews d'articles de ces grandes revues où il y avait 12 pages de commentaires avec une trentaine de modifications à faire. Quand vous avez le fait qu'il y a plusieurs reviewers sur un même article qui se contredisent, si on veut accepter et tenir compte de toutes les recommandations, on touche à l'impossible parce qu'on arrive à faire un article qui n'a plus aucun souffle parce qu'il consiste uniquement en réponse aux reviewers. Donc nous avons un problème sérieux au-delà des problèmes de mode dont je parlerai dans un instant. Ça, c'est les grandes revues. Après, vous avez les revues de spécialité qui sont dans l'ensemble bonnes. Les bonnes revues de spécialité sont satisfaisantes. Les éditeurs sont scientifiques, alors que ceux des grandes revues, j'y reviendrai, ne le sont pas toujours, ou l'ont été, mais brièvement. Donc, dans les revues de spécialité, l'expertise est faite de façon plus convenable, le taux de rejet est moins élevé, il n'atteint pas les 95% ou 97% des revues précédentes. Et le seul problème, c'est qu'on voit d'abord une certaine hétérogénéité, ce qui dilue un peu les bons articles. La raison en est très simple, c'est qu'il y a des articles absolument formidables qui sont envoyés à Nature ou ailleurs, sont refusés, se retrouvent dans des journaux de discipline, de spécialité, dont le facteur d'impact s'est effondré. Si je prends dans ma discipline l'immunologie, le Journal of Immunology, qui est un remarquable journal, qui avait un facteur d'impact de 13-14, est tombé à 5, et il contient à la fois des articles refusés dans les autres journaux pour des raisons X ou Y, et des articles un peu moins bons, c'est un gros journal, et ça pose un problème. Et ce qui conduit certains de ces journaux de spécialité à adopter la stratégie du non-examen, de la non-lecture de beaucoup d'articles reçus, donc qui tombent un peu dans les mêmes biais, et là, il y a un vrai problème. Alors après, il y a les revues de type PLOS, PLOS One, qui est un peu plus généraliste, ou eLife, dans le domaine de la biologie. C'est certainement une formule intéressante. Elle était au départ non lucrative. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le fondateur, Harold Varmus. Ces revues étaient non lucratives. L'idée, c'était d'avoir des taux de rejet un peu différents suivant la revue PLOS. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal parce que le taux de rejet n'est pas très élevé, de l'ordre de 40% à peu près, 40-50%. Tout le travail est fait par des éditeurs scientifiques qui gèrent complètement les décisions. Il y a au niveau central très peu de décisions qui sont prises. Donc il y a parfois des interactions entre les éditeurs. Les APC ne sont pas négligeables, mais enfin, elles ne dépassent pas 1200 ou 1300 euros pour Plus One. On peut discuter sur ce point-là, et Denis Jérôme reviendra sur les modèles commerciaux tout à l'heure et comme d'autres. Mais Plus One est finalement un système relativement intéressant. E-Life s'est créé sous l'instigation d'un autre prix Nobel, Randy Shechtman. C'est un modèle intéressant, un peu le même principe. Ils ont trouvé de l'argent, des fondations pour aider le fonctionnement, ce qui réduit les APC. Ils ont en passant fait preuve d'originalité, enfin pas complètement sans doute, mais en partie, mais à ce niveau-là sans doute, pour l'anonymat. Moi, je me suis toujours posé un problème, le problème aussi a été discuté plusieurs fois aujourd'hui, hier, de l'anonymat. Alors, ce que fait eLife, je vous l'indique parce que ce n'est pas très connu. Il donne le nom, ce qu'ils prennent en général trois reviewers, trois experts, et il donne à chaque expert le nom des deux autres experts en leur donnant les rapports des deux autres experts. Mais pas, il ne donne pas aux auteurs, donc il ne supprime pas l'anonymat. C'est une formule intéressante qui pousse quand même les reviewers à faire attention. On a parlé de commentaires débiles, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, à faire attention à ce qu'ils écrivent s'ils savent qu'ils vont être lus par deux autres membres de la communauté, sans pour autant que tout le monde soit au courant des choses. Et puis, j'en parlerai qu'en une phrase ou deux, il y a les revues prédatrices, toutes ces revues en ligne, notamment d'Asie, qui viennent parasiter la situation. Elles ne sont pas reprises, mais enfin, elles existent et entraînent certaines perturbations sur lesquelles je ne reviendrai pas. Alors, cette situation un peu contrastée, j'ai bien dit l'importance, l'intérêt du peer reviewing et les commentaires négatifs que j'ai faits pour les différents types de revues que j'ai évoquées. Où sont les responsabilités? Eh bien, elles sont largement distribuées. Il y a d'abord la responsabilité des revues commerciales. On l'a dit hier, quand on voit les marges qui sont faites, encore une fois, on ne peut être que choqué par le niveau des marges qui sont faites par ces revues, commerciales. La science, bon, ça peut dériver sur du commerce, l'entreprise industrielle, mais dans le cas particulier, la publication scientifique doit être par essence une diffusion de la connaissance, et dans la mesure où tout est fait par les scientifiques, on n'arrive pas quand même à comprendre comment nous avons, nous, accepté cette situation. Alors, les revues étant commerciales, évidemment, travaillent dans la lignée de cette réflexion, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser les sujets à la mode. Moi, je vois bien que dans mon domaine, je m'intéresse au microbiote intestinal en particulier. Les mêmes articles de la même qualité, il y a 3 ans, paraissaient dans les revues de spécialité. Aujourd'hui, c'est Nature et Science pour les revues, pour des articles du même ordre, du même niveau. Donc, il y a cet effet de la mode. Le fait que les éditeurs, et même si je suis filmé, j'ose le dire, les éditeurs, les assistants éditeurs de certaines grandes revues n'ont pas un CV, n'ont pas une liste de publications eux-mêmes qui leur permettent d'avoir un tel pouvoir sur la communauté scientifique en prenant des décisions qui vont concerner complètement la carrière des chercheurs. Donc les revues sont certainement responsables. Néanmoins, bon, il ne faut pas dire pour autant qu'on peut tout faire gratuitement. Il y a des coûts, il faut qu'ils soient assumés, il faut réfléchir à savoir comment le faire. Les reviewers, j'en dirais juste un mot, dans l'ensemble, ils travaillent bien, ils ont du mérite parce qu'ils sont bénévoles ils y passent souvent beaucoup de temps. Néanmoins, on ne peut pas ne pas citer les perversités des reviewers qui ont intérêt à faire retarder un article, pour ne pas dire le faire refuser, les reviewers qui utilisent les données d'un article en le faisant retarder, en faisant retarder la publication en plus. Là, il y a des problèmes, j'y reviendrai dans mes quelques phrases de conclusion. Les auteurs ont leurs responsabilités, notamment par rapport aux grandes revues. Ils tiennent tellement à pouvoir publier dans ces revues qu'ils sont prêts à tout pour le faire. Il y a certains même, que j'appelle volontiers, dans ma terminologie, des professionnels de la publication qui pensent plus à l'important au niveau de facteurs d'impact des publications qu'ils vont pouvoir obtenir qu'à la découverte qu'ils peuvent réellement faire. C'est un cas extrême. Il n'est pas exceptionnel. Donc là, il y a de nouveau un problème. Moi, je dis parfois, c'est le syndrome de Stockholm, non pas celui de la recherche du prix Nobel, qui est tout à fait acceptable, mais je pense au syndrome simplement des otages qui sont amoureux de leur personne qui les séquestre. Autrement dit, en quelque sorte, nous critiquons ces façons de faire des grands journaux, mais beaucoup de chercheurs font tout pour leur plaire, plaire aux éditeurs, plaire aux reviewers et finalement accepter complètement les règles qui sont imposées. Et puis, il y a un quatrième responsable, c'est les évaluateurs. Ce sont les évaluateurs qui, de plus en plus, se fonde sur les chiffres de citation du facteur d'impact du journal, ce qui est le pire, parce qu'un facteur d'impact n'est pas du tout fait pour expertiser le niveau des chercheurs, mais expertiser la revue. C'est comme ça que ça a été fait par Garfield au départ. Donc là, il y a une erreur d'interprétation. Quand on présente un candidat, il a 4 Nature et 2 Science, c'est terrible, mais nous l'entendons souvent, même dans les instances les plus élevées, je peux vous dire. Donc, il y a là un problème supplémentaire qui est finalement le fait que la facilité du travail que se donnent les instances d'évaluation et qui finalement arrive aux résultats qu'on connaît. Alors, je voudrais être bref, parce que je crois qu'on a un peu de retard. Donc, je voudrais essayer maintenant de conclure. Alors, que peut-on proposer pour changer les choses? Alors, l'expertise, je vais faire quelques vœux pieux. Je sais bien que c'est facile à dire, pas facile à faire. Je pense que quelque part, il faudrait qu'il y ait une sorte de charte de l'expertise. Parce que, alors, il y a eu des propositions très intéressantes qui ont été faites ce matin même, qui ne sont pas appliquées dans la plupart des revues. Mais on peut imaginer qu'un ensemble de personnes écrivent une charte de l'expertise en espérant qu'elle soit appliquée. Comment la faire appliquer? C'est là où le bas blesse. On aura beaucoup de mal. Mais enfin, si on se mettait d'accord sur la façon dont les choses devraient se faire, sans tomber dans des choses trop compliquées, la remarque qui a été faite sur les disciplines où il y a beaucoup d'articles est bonne. Donc, il faut être réaliste. Et ce qui est fait en géosciences est intéressant. Ce n'est pas toujours facile à mettre en évidence. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les experts. Alors après, le milieu académique, et ce serait le deuxième souhait qu'on pourrait avoir, il faudrait que les choses soient reprises en main par le milieu académique. Que des revues commerciales existent. Bon, elles ont eu leur rôle, elles ont leur rôle. Je ne critique pas, j'ai dit l'importance même de Nature et de Science pour la recherche mondiale. C'est tout à fait clair. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse essayer de reprendre le pouvoir dans un domaine qui est le nôtre. Alors, comment le faire? Il y a ce que nous avons entendu hier notre collègue Pierre Bronstein sur les sociétés savantes en chimie. Alors, c'est un pas intéressant. Le petit biais, c'est que ces sociétés en profitent pour gagner pas mal d'argent pour pouvoir mener leurs propres activités. C'est un mélange des genres qui est quand même un peu critiquable. Mais enfin, c'est une idée. Et en tout cas, il y a là quelque chose d'important à refaire, c'est d'essayer de reprendre le pouvoir. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut lutter contre ce facteur d'impact ou contre cette façon d'évaluer la recherche par des chiffres qui n'ont qu'une valeur relative. Ils peuvent aider dans certaines situations. Il est évident que lorsque ces chiffres sont très, très mauvais, c'est mauvais signe sur le dossier. Et lorsqu'ils sont très, très bons, a priori, la personne doit être en général de bonne qualité. Mais dans tous les cas intermédiaires qui sont les plus nombreux, c'est quelque chose qui est assez catastrophique. Je dois dire que nous avons combattu le facteur d'impact et les autres indices de façon modérée. D'ailleurs, on s'est fait critiquer, si j'ose dire, à droite et à gauche, parce qu'on a eu des gens qui trouvaient qu'on n'avait pas été assez loin dans la critique, d'autres, au contraire, trop loin. Mais enfin, là, il y a un combat à mener qui concerne toute la communauté, et pratiquement toutes les communautés, sauf celles privilégiées, je pense aux mathématiques, qui n'ont jamais accepté cette façon de faire, et on ne peut que les féliciter, tout en remarquant néanmoins que le problème est un peu plus simple peut-être chez eux, parce que leur communauté est de taille plus restreinte. Je pense donc que, pour finir, je dirais qu'il faut que nous revenions aux fondamentaux des publications scientifiques. C'est la diffusion des connaissances qui prend maintenant un essor extraordinaire avec les papiers en ligne, avec la possibilité de toucher le monde entier de façon quasi immédiate. Il faut que ça soit vraiment notre objectif principal. Il faut sans doute aider aussi à la diffusion des travaux de chaque chercheur. C'est important, pas seulement à la diffusion des connaissances, mais faire connaître les chercheurs qui sont à l'origine de ces travaux. Quant au reste, il faut vraiment arriver tous ensemble. Ce n'est pas seulement la France qui pourra y arriver, mais toute la communauté internationale doit s'unir pour essayer de sortir de ce problème qui s'est aggravé alors que tout était fait pour améliorer la situation. L'arrivée d'Internet, des papiers en ligne aurait dû tout améliorer. Ça l'a beaucoup amélioré dans certains domaines, pas dans tous. Mais pour cela, il faut une coopération entre les différents pays. Hier, nous avons eu des collègues néerlandais, allemands, anglais. Bon, nous avons essayé avec Denis Jérôme de leur parler. On a été les voir. On n'arrive pas à mobiliser un effort conjoint. Il y a l'Europe qui peut aider, mais jusqu'où l'Europe peut arriver à faire passer ses idées? Donc là, il y a une affaire qui ne peut être que mondiale, parce que ces publications, c'est bien nous d'avoir les règles que l'on a en France ou les souhaits qu'on peut avoir. Si ce n'est pas étendu au monde entier, ça ne sera pas utile. Et donc, c'est un combat beaucoup plus large que celui de notre pays, même si chaque pays doit y prendre sa place. Et je pense que des réunions comme celle-ci vont contribuer à faire valoir les idées, les ambitions de notre pays. Merci.
Merci beaucoup.